Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue à Pavillon Nomade, la radio follement normale, là où les idées voyagent et où les micros ne tiennent pas en place. Nous avons le plaisir d'être en direct depuis la buvette du MQC jusqu'à 16h30 en votre compagnie et de nos participants du jour avec Maël, Alina, Myriam, Samuel, Christelle, on a Christine, on a Clara et à la technique on a Pascal et David aussi et Elvio. Aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger autour de différents thèmes et de notre rubrique, la Minute d'Elvio. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter. Bonjour Elvio, je suis ravi de co-animer cette émission avec vous. Ça faisait d'ailleurs un moment que nous n'étions pas retrouvés. Quel premier thème on va aborder ?
Alors, c'est avec un grand bonheur que nous allons aborder le premier thème, c'est-à-dire les vacances.
Les vacances, c'est vieux.
Les vacances, oui, parce qu'il fait beau, il fait chaud. On a juste envie d'aller soit en montagne, soit plonger dans la mer. Donc, c'est avec joie que je vous annonce ce thème.
D'ailleurs, vous êtes drôlement bronzé, Elvio. Est-ce que vous revenez vous-même de vacances ?
Ah non, alors là, moi, c'est plutôt la montagne. Alors, je dirais que toutes les semaines, je pérégrine dans nos sommets. Et d'ailleurs, ça fait un bien fou parce que ces temps-ci, il a fait vraiment très, 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 très chaud. Et ici, sur le site, hein, on n'a pas beaucoup de ventilateurs ni de climatisation. Et c'est vrai que des fois, ça peut manquer, surtout quand on est sous les combles.
Alors Elvio, oui. Vous parliez de vacances, voyages, mais comment on aborde ce thème d'après vous ?
Alors, on va demander, pourquoi pas à Alina. Alina, quelle est votre destination préférée ?
La Croatie.
La Croatie. Vous avez des origines de Croate ?
Non, pas du tout. Je suis roumaine d'origine. Mm-hmm. Mais j'aime beaucoup la Croatie parce que, en fait, j'ai fait un camp d'une semaine. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé la bord de la mer, le village, la ville, un peu de tout.
Et l'alimentation aussi, la cuisine, est-ce qu'elle est méditerranéenne ?
Oui.
Oui. Et vous aimez particulièrement ce genre de cuisine ?
Écoutez, moyennement.
Moyennement, quoi. Ouais. Genre les fruits de mer, c'est pas votre truc. Quoi.
Non, non. J'aime les petites crevettes qui sont dans les magasins, dans des petits paquets roses. Oui. Mm-hmm. Mais autrement, je mange pas de fruits de mer.
Sinon, il y a quoi de beau à voir en Croatie ?
Il y a la mer, le village, il y a des gens. C'est des gens qui sont bienveillants envers nous. Ils sont nickel.
Vous avez fait du bateau ?
Non, je supporte pas le bateau. J'ai mal d'humeur.
Ah. Non, alors c'est mieux pas, en effet.
Mais j'ai fait du badoc.
Le badoc, qu'est-ce que c'est ?
Le badoc, oui. C'est, en fait, ça ressemble à un bateau, mais en fait, c'est une planche, et puis on doit ramer.
Ça ressemble à un paddle. C'est un peu près dans le même genre, en fait.
Oui.
Ah, voilà. Sinon, là, vous aimez aussi la montagne ?
Non, parce qu'avec mes jambes, j'ai des difficultés à faire la montagne, alors du coup... je fais un peu de montagne, mais pas beaucoup.
Parce que vous avez beaucoup de couleurs, hein, vous avez bien pris le soleil en tout cas.
Moi, je suis souvent sur le balcon, je reste ici à la forêt. Pardon, je sais que je ne dois pas parler de la forêt, mais je suis beaucoup sur le balcon et puis je discute avec les gens, je prends du soleil et tout. Et puis voilà.
D'ailleurs, la Croatie, est-ce que vous êtes allé à Zadar, où il y a les orques marins ? Ça vous dit quelque chose ?
Non, pas du tout.
Alors, chers auditeurs, auditrices, si vous avez l'occasion d'aller visiter la Croatie, hein, j'y étais il y a quelques années en arrière, il y a Zadar, ils ont fait au bord de la mer, s'il y a une petite digue, une jetée, ils ont fait des trous de différentes dimensions et le vent et le clapotis vient à travers ces tubes et on a comme ça un chant naturel au degré du vent et de la houle de la mer qui vient faire une symphonie d'orques. C'est juste incroyable. Quand vous arrivez au coucher de soleil, vous vous posez. Alors, c'est très touristique, c'est vrai, mais quand vous vous posez et que vous écoutez, il y a quelque chose comme ça d'hyper méditatif. Si vous avez l'occasion d'y retourner, Alina, allez découvrir Zadar et ses orgues.
D'accord.
J'avais compris les orques, moi.
Ah, les orques ?
Non, ouais, moi aussi, j'ai compris ça, en fait.
Ça, les orques, c'est dans une autre émission. C'est le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs.
Ouais. Il y a aussi ces orques-là, mais il y a aussi les orques à mammifères.
Ah bah oui, alors ça, c'est aussi. D'autres voyages
voilà,
encore.
Voilà, exactement.
Merci, Alina, d'avoir partagé avec nous. Alors, je sais pas.
Je vous en prie.
S'il y a d'autres personnes qui ont envie de parler du voyage, finalement, Christine, on vous écoute.
Alors bonjour, moi c'est Christine. J'ai fait des voyages, mais je ne suis jamais allée à l'Est parce que j'ai perdu beaucoup d'amis entre 15 et 18 ans qui sont partis babacool et qui sont revenus le nez dans la poudre. Donc je me suis dit, ce n'est pas une destination pour moi. Alors j'ai commencé par l'Afrique noire, le Rwanda et le Burundi. Ensuite, j'ai fait tous les déserts depuis la Syrie jusqu'au Maroc avec mes enfants. Et puis après, j'ai dû les mettre à l'école. Donc on est venu à Genève. Ils ont été à l'école Steiner. Ils sont c'est tous des HP. Donc ils étaient très bien dans cette école. Et maintenant, ils vont très bien. J'ai eu beaucoup de soucis, mais maintenant, ils vont très bien. Au niveau des voyages, je suis allée au Brésil. J'ai vu les Indiens d'Amazonie, d'où ma casquette Puma, parce que c'est le totem qu'ils m'ont donné là-bas, les Indiens. Moi, je voulais être un papillon. Ils m'ont dit, t'es pas un papillon, t'es un puma, t'es un prédateur. Alors, je veux bien me transformer en prédateur. Et puis, autrement, j'ai fait tous les pays d'Europe avec ma mère et mon père quand j'étais petite.
Vous m'aviez dit une fois même que vous aviez voyagé avec les Bédouins.
On a fait depuis le désert de Syrie jusqu'au désert du Maroc avec les caravanes du Bédouin. Parce qu'ils ont des endroits où ils se rejoignent pour faire des marchés entre eux. Ceux qui viennent d'Asie, ils ont les épices. Ceux qui viennent de plus loin, ils ont le thé. Ceux qui viennent de plus loin, ils ont le kurkuma. Les autres, ils ont le savon d'Alep. Donc tout ça, ça s'échange. Il n'y a pas d'argent, c'est que de l'échange.
C'est du troc.
C'est du troc. Ça, c'est l'avenir du monde, c'est le troc.
Et vous parlez arabe ?
Anat kalma arbi shwaya shwaya.
Shwaya shwaya, shwaya shwaya.
J'ai appris parce que j'ai vécu 2 ans au Caire et j'ai pu faire de la médecine sauvage, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Parce que Emmanuel disait, chez nous, il ne faut pas des diplômes, il faut des mains. Quand il y a des coutures à faire, il faut faire les coutures. Quand il y a des piqûres à faire, il faut faire les piqûres. Quand il y a des prises de sang à faire, il faut faire les prises de sang. Donc, j'ai pu faire de la médecine sauvage comme ça pendant 2 ans. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça.
Alors, Christine, vous avez été une grande aventurière dans vos voyages. Vous avez découvert pas mal de pays. S'il y avait encore un pays qui vous tiendrait à cœur de visiter, ce serait lequel ?
Ben, si ce n'était pas aux États-Unis, ce serait la Californie. Mais jamais je mettrai un pied aux États-Unis.
Ok, alors passons les États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a un autre ?
Ah, toute l'Amérique du Sud encore, j'ai envie de faire.
Un pays particulier ?
La Colombie.
Ah, la Colombie, merveilleux Colombie. Ah voilà, là, ça touche ma fibre intime hein, d'origine colombienne. D'ailleurs, ça a été un voyage fantastique hein, pour ceux qui ont déjà entendu cette anecdote ou en tout cas cet espace de temps. Je suis retourné l'été passé pour la première fois, vu qu'on est dans le voyage, la première fois en Colombie, retrouver mes racines et puis l'orphelinat. Mais ça, on aura l'occasion peut-être un jour d'en faire une émission spéciale.
J'avais du contact par Internet avec une dame colombienne, par Skype à l'époque. Et un jour, elle me dit, mon fils a pris une balle perdue dans l'épaule, il faut que je quitte le pays. J'ai dit, tu viens chez moi à la maison, toi tu me fais le ménage, tes enfants ils vont à l'école. C'est ce qu'on a fait. Après, ils se sont mariés, les belles filles n'ont plus voulu d'elle, elle a dû s'expatrier aux États-Unis avec sa sœur dans une caravane. Mais on a vécu des belles années, c'était une femme formidable. Et on a créé les golondrinas, ça veut dire les hirondelles, pour toutes les femmes qui mettaient 15 gamins dans un studio avec une jeune fille et qui allaient travailler au noir. Non seulement on les a inscrites au travail, on les a inscrites à l'école, on a trouvé des médecins gratuits, des dentistes gratuits. Et maintenant, elles sont des papiers et elles sont plus clandestines.
Eh ben, on aura une belle pensée pour toutes ces personnes à qui vous avez apporté votre aide. Alors, je ne sais pas si autour de la table, il y a d'autres personnes qui ont envie de parler. Alors, le thème du voyage est quand même très vaste, hein, parce qu'on aborde ça. On a Christelle qui a envie de... Allez, prenez le micro, Christelle, allez-y, on vous écoute.
Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'aimerais parler d'un rêve d'enfant. J'avais 17 ans et j'ai rêvé de partir à Québec, au Canada. Et j'ai réalisé mon rêve à 40 ans avec mes enfants. J'ai embarqué mes enfants, un ami de mon fils, un compagnon de l'époque. Et on est parti 3 semaines, on a fait le Canada. C'était un rêve réalisé. Et à 17 ans, j'ai rencontré un garçon qui vivait là-bas. Et qui m'a fait rêver. Et je suis allée en voiture jusqu'à Baie-Saint-Paul. C'est où il habitait à l'époque, en 1987. Et j'étais dans la voiture, j'ai rien dit à personne. Et je suis passée à Baie-Saint-Paul. Et ça m'a fait tout drôle. Et on a vécu 10 jours à Montréal. On avait loin un appartement. On a fait Québec, on a fait Tadoussac, les chutes du Niagara... Enfin, c'était voilà, un rêve accompli. Et c'était fantastique. Et les Québécois sont des gens formidables. Et le Canada est extraordinairement beau.
Et comment les enfants ont vécu ce voyage ? Vous avez certainement dû échanger avec eux après cette belle expérience. Qu'est-ce qu'ils en disent ?
Fantastique. C'est un des plus beaux voyages qu'ils ont fait.
Et il reste encore pas mal de pays à découvrir en famille ou...
Alors en famille, non, je pense pas. Ils sont adultes maintenant, ils ont leur vie. Mais moi, personnellement, j'ai pris un abonnement de train. Là, je vais faire la Suisse.
Abonnement de train pour faire la Suisse. Bah, c'est vrai, finalement, voyager, c'est quoi ? À quoi ça sert de voyager ? Puis est-ce que finalement, on est obligé d'aller à l'autre bout du monde pour être en voyage ? Alors ouais, je vois déjà pas mal de gens qui font comme ça avec la tête. David, vous avez envie peut-être de partager avec nous ou pas ? Ok, il n'y a pas de souci. Christine, on vous écoute.
Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en Suisse, on a de la chance d'avoir des étrangers. Parce que j'ai vécu à Genève 20 ans, on avait 200 nationalités dans l'immeuble où on habitait. Il y avait des Albanais, il y avait des Érythréens, il y avait tout ce que vous voulez. C'était un HLM, magnifique d'ailleurs, qui était neuf. Et mes enfants ne se sont jamais sentis mal à l'aise là-bas d'être métisse. Par contre, quand on a déménagé en Valais il y a 6 ans, ils m'en ont mis 3 en psychiatrie, parce qu'on n'a pas supporté le Valais ni les uns ni les autres. Et je pense qu'ils vont repartir sur Genève, continuer leur vie. Et moi, je vais partir maintenant en Pakistan, chercher mon correspondant là-bas, parce qu'il y a la guerre qui a commencé avec les Indes au sud-ouest. Et la Chine ont mis tous leurs camions militaires à l'est.
Alors ça, c'est une autre forme de voyage, mais on espère en tout cas que vous arriverez à sortir de là-bas. Alors je ne sais pas, autour de la table, on a Myriam, on a Maëlle, on a Samuel. Est-ce que vous avez envie peut-être de partager autour de ce thème du voyage ? Samuel, est-ce que vous avez déjà voyagé et où ? Pardon. Alors c'est pas grave.
Oui, j'ai déjà voyagé dans plusieurs pays en Europe. Après, je suis jamais sorti de l'Europe. Mais sinon, j'aimerais bien aller dans les pays d'Amérique du Sud, parce que ça m'intéresse pas mal. La ferveur là-bas qu'il y a, les gens, ils vivent beaucoup pour les émotions. Moi, j'aime beaucoup ça.
Et est-ce que vous avez découvert aussi dans des pays d'Europe des rencontres, des moments comme ça un peu atypiques où les émotions ont été un petit peu à fleur de peau, ou des émotions qui ont permis que vous vous sentiez bien ? Quel voyage vous avez fait en Europe d'ailleurs ?
J'ai fait au Portugal, dans mon pays de ma mère. Ensuite, j'ai aussi fait en Angleterre, en France, en Italie, enfin dans plein de pays en Europe. Mais c'est vrai que c'est bien de découvrir de nouvelles villes, de nouveaux monuments, découvrir la culture. Moi, j'aime bien.
Et vous privilégiez les pays du Sud, apparemment ? Comme l'Amérique du Sud, justement, à quelle destination vous attire ?
Je sais pas, le Brésil, parce que j'aime bien le foot. Ah. Et puis c'est réputé pour être le pays du football. Mmh. Et puis après, ouais.
Et en plus, vous avez l'avantage de parler portugais ?
Je parle un peu, ouais. Mmh. Je suis pas bilingue, mais je parle un peu. Mmh.
Quels sont les types de... À quoi on doit faire attention d'ailleurs quand on part en voyage ? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent là des bons moments, des bons souvenirs, des émotions. Mais quand on part en voyage comme ça à l'autre bout du monde, où souvent on a comme ça un choc des cultures, un choc des valeurs peut-être même, on pourrait dire. À quoi on doit faire attention, Christelle ?
Alors moi je parlerai pas d'un choc des cultures. Je parlerai d'un choc au niveau de l'eau. Il faut faire très attention à l'eau qu'on boit sur place, parce que, moi je suis allée en Espagne, c'est pourtant pas le bout du monde. Et j'ai attrapé, comment ça s'appelle ?
La tourista, on dit, vulgairement parlant.
La tourista, voilà, j'ai fait 15 jours de vacances en Espagne, 15 jours enfermés dans les toilettes, c'était magique, extraordinaire. Non, il faut faire attention, mais c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de l'habitant, de voyager. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Andalousie aussi. Et j'ai eu la chance d'être chez l'habitant. Et c'est formidable d'être chez l'habitant.
Christine.
Je voulais juste vous dire ce que m'a dit mon médecin quand il m'a fait les tampons sur mon carnet de vaccination international. Parce que vu mon état de santé, je n'aurais pas pu faire un seul vaccin ni un seul voyage. Donc il m'a rempli mon carnet. Il m'a dit, tu prends 3 choses avec toi. De la codéine, du bicarbonate de soude... et des gélules d'arnica.
Ah j'imagine que c'est déjà une bonne solution.
Et mon fils buvait l'eau du robinet au Caire. Les gens, ils achetaient des bouteilles. Moi, je devais montrer 4 étages avec le gamin et les commissions. J'ai mis un petit filtre à charbon. On a bu l'eau du Caire. Et j'ai dit au pédiatre, c'est étonnant, à 2 ans, il mange des gousses d'ail. Il m'a dit, bois de l'eau du robinet. Je dis oui, il a dit, alors laissez-lui manger ses gousses d'ail.
Eh ben, merci pour cette anecdote. Mais c'est vrai que le problème des boissons, de l'eau, c'est toujours un problème. Moi, à l'époque, quand je voulais faire cette formation de guide de montagne, il y avait pas mal de guides qui partaient en Amérique du Sud et en Inde pour faire des 4000. Et puis, je leur avais dit, ouais, mais moi, j'étais allé une fois au Maroc, j'ai bu. Il me dit, mais tu sais, moi, j'ai une technique qui fonctionne bien. C'est je prends la brosse à dents le premier jour, je la trempe une fois dans l'eau, je la secoue et je viens frotter les gencives. Je bois pas d'eau du tout au robinet, je bois que des bouteilles d'eau, mais je fais ça pendant les premiers jours et petit à petit, je me suis dit, c'est quand même bizarre sa technique. J'ai essayé, alors je dis pas que ça marche, hein. En tout cas ça a marché chez lui et chez moi, de se frotter les gencives, comme ça vous créez un petit peu des anticorps. Alors j'imagine que c'est une recette un peu comme ça de grand-mère, mais peut-être que ça peut aider. Autour de la table, on a d'ailleurs Clara. Bonjour Clara.
Bonjour.
Clara, vous êtes infirmière ici à l'hôpital du Valais-Malévaux. Vous avez fait une expérience juste extraordinaire. On parlait tout à l'heure, Christelle, parlait d'aller chez l'habitant. On appelle ça le woofing, si je ne me trompe pas, c'est ça. Mais finalement, qu'est-ce que c'est le woofing? Alors Clara, vous, expliquez-nous un petit peu votre parcours que vous avez eu pendant une année. Vous êtes mis un peu en off de votre métier pour découvrir d'autres choses à travers ce voyage.
Oui, alors moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager déjà, mais là effectivement je suis partie pendant un an en Polynésie française faire du woofing. Donc le principe c'est d'être logé et parfois nourri en échange d'un travail, enfin d'une aide à la maison pendant quelques heures. Donc voilà, la Polynésie française c'est quand même une destination qui est très chère pour y aller et sur place. Donc ça nous a permis aussi de pouvoir rester longtemps. Et puis surtout de bien s'imprégner de la culture là-bas, être avec les gens. Et puis voilà, en échange, on a débourré des cocos, on a nettoyé des plages, on s'est occupé de la vanille, on s'est occupé des animaux, des enfants. Et puis voilà.
Bah, peut-être autour de la table et puis les auditeurs qui nous écoutent, peut-être le terme vous avez dit débourrer des noix de coco. Mais alors, qu'est-ce que c'est débourrer une noix de coco? Alors ça m'intéresse.
Alors, il faut récupérer les cocos qui sont au sol. Et puis après, il y a une espèce de couche qui ressemble à des cheveux sur la noix de coco. Il faut les enlever. C'est hyper difficile à enlever. Il faut avoir pas mal de force. J'avoue que je n'étais pas la plus douée pour faire ça. Donc, ça s'appelle débourrer, en fait. Enlever la première partie de la coco. Et après, pour laisser juste la noix. Et puis après, avec la noix, ils faisaient de l'huile de coco là-bas pour faire le monoi, en fait, le monoi de Tahiti.
Magnifique. Et est-ce que vous avez vécu dans différents endroits ou est-ce que vous êtes resté au même endroit avec la même, je ne sais pas si on dit entreprise, ferme
On a été sur 12 îles. Il y a 118 îles en Polynésie. On en a fait 12. On a eu beaucoup de chance. Donc on a fait plein de travaux différents. Et voilà, c'était une expérience incroyable. On a pu profiter à côté du lagon, nager avec des baleines, des raies-mantas, des dauphins, des requins. Voilà.
Ah, je vois tout le monde a les yeux qui ne pouvaient pas nous voir ici autour de la table. On a tous les yeux très ouverts, très pétillants de votre expérience. De cette expérience d'une année, est-ce que ça vous a finalement changé? Est-ce que ça vous a permis aujourd'hui peut-être d'aborder peut-être l'accompagnement des bénéficiaires en soins autrement qu'avant que vous ayez fait ce voyage et ces rencontres?
Ça, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, en Polynésie, c'est des gens qui vivent très, très simplement, en fait, qui ne sont pas du tout axés sur l'argent comme nous, on peut avoir ici en Europe. C'est des gens qui sont très généreux, qui donnent beaucoup de leur personne, on faisait du stop, ils nous donnaient plein de fruits, plein de légumes, qui ne se prenaient pas. Des fois, ça permet aussi d'avoir un recul et de se dire qu'il y a des petites choses sur lesquelles on se prend la tête qui finalement ne sont pas nécessaires. Donc, j'essaie de transmettre ça aux patients quand des fois il y a un petit coup de mou et voir les choses plus positivement, en tout cas plus simplement.
Eh ben, merci de votre partage. Merci, Clara. Elvio, vous êtes aussi un voyageur. Je pense que vous en avez fait quelqu'un. Est-ce que vous avez expérimenté le woofing?
Alors, franchement, je n'avais jamais entendu du tout parler du woofing. Mais c'est un concept, en fait, que je trouve très intéressant. J'aimerais juste savoir, est-ce que c'est un procédé qu'on peut faire en famille?
Oui, il y a des gens qui viennent en famille. Alors, en général, bon, vu que c'est des, voilà, c'est des gens qui nous accueillent à la maison, dans leur maison, donc ils n'ont pas beaucoup de place. Mais il y a aussi du woofing sur les bateaux des catamarans. Il y a des familles qui partent en voyage sur les catamarans et du coup qui cherchent des woofers, ça s'appelle. Donc oui, c'est possible de faire en famille. Après, ça dépend des demandes des gens.
Et vous restez toujours dans le même endroit ou vous pouvez, par exemple, sur 3 mois, visiter 3 familles différentes?
Oui, c'est ce qu'on a fait. En fait, alors, il faut pas. Voilà, c'est quand même réglementé parce que sinon, c'est du travail caché. Donc, il faut qu'on. Bon, normalement, on doit faire 2 semaines maximum, mais nous, on a fait jusqu'à 1 mois et demi. J'ai vu des gens qui étaient restés installés 6 mois. Donc... ok. Ouais, donc voilà, et puis ça nous a permis de voyager entre les îles aussi. Donc le but, c'était quand même de rester, puis de partir différents endroits.
Et il y a la possibilité aussi de travailler avec des animaux, faire un peu ce qu'on appelait l'écotourisme à l'époque. Il y a ces possibilités-là.
C'est-à-dire
avec des réserves naturelles ou ce genre de choses.
Oui, alors comme c'est réglementé quand même, c'est quand même plus de l'aide à l'habitant. On s'occupait d'animaux, mais c'était plus
dans la ferme,
des chevaux, des cochons.
Alors moi, c'est un terme que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, le woofing, parce qu'il y a un peu plus de 20 ans en arrière, j'étais parti pendant quelques mois au Maroc pour partir grimper, voyager un peu. Puis on n'avait pas tellement d'argent. Et puis on allait voir les fermes où il y avait les récoltes d'oranges et de mandarines et tout ça. Et puis on leur demandait, écoutez, est-ce que c'est possible de dormir chez vous ce soir? Puis on vous donne un coup de main le lendemain matin. Et puis on est arrivé un peu comme ça, un peu à l'arrache. Hein?
Même principe.
C'est le même principe. Et puis, il nous disait, oui, il n'y a pas de souci. Alors, on est tombé quand même pour les anecdotes. Des fois, le lendemain matin, on pensait être réveillé à 6h du mat. On nous réveillait à 10h avec un petit déjeuner gargantuesque. Puis, on disait, mais attendez, mais nous, on veut vous donner un coup de main. Merci de l'hospitalité. Non, les jeunes, allez-y. Il n'y a pas de souci. Ça nous a fait plaisir. Et puis, d'autres fois où on était réveillé à 6h du mat. Et puis, on était envoyé au champ. Et à midi, on était toujours en train de se dire, mais quand c'est qu'on va partir? Et puis on était là et on nous faisait travailler. Et puis pendant toute la journée, on s'est fait avoir quelques fois comme ça. Mais j'ai appris par la suite que c'est devenu un mode de voyage. Le woofing, d'ailleurs, il y a pas mal de sites. Si les gens sont intéressés par ce mode de voyage, vous pouvez aller sur Internet. Je pense que vous tapez woofing. Alors je ne sais pas comment on écrit, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle de ces moteurs de recherche font que même si vous l'écrivez mal, vous arrivez quand même à trouver rapidement des liens. Si vous êtes intéressé de voyager de cette manière-là, allez-y, c'est enrichissant comme expérience. Merci Clara de votre partage. Christine, excusez-moi.
Oui, je n'ai pas parlé de mon tout premier voyage. À 15 ans, j'ai dit merde à ma mère, elle m'a mis une claque. Elle m'a dit c'est moi qui paye, c'est moi qui commande. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui paye, c'est moi qui commande. J'avais 50 balles dans ma poche et ma guitare et j'ai voyagé pendant 18 mois dans toute l'Europe. C'était les gitans qui me prenaient dans les camps pour que je sois en sécurité la nuit. Ils m'ont appris à jouer de la guitare avec la main droite, avec la main gauche, j'avais un peu au scout, mais la main droite, je ne savais pas qu'en faire. Et je suis tombée sur des gens extraordinaires. J'arrive dans le métro à Paris, je m'installe avec ma guitare, il y a 2 mecs avec des banjos qui arrivent et disent « c'est notre place ». Je dis « c'est marqué où ?» Ils m'ont dit « toi, tu n'es pas d'ici ». J'ai dit « non, je ne suis pas d'ici ». Ils m'ont dit « bon, alors, tu peux jouer avec nous, on va avoir 6000 francs chacun pour acheter un cheval pour aller au pèlerinage de la Vierge Noire. Et tu viens avec nous à la Vierge Noire ?» J'aurais dit « oui ». Puis en fait, quand j'ai eu les 6 000 francs, je suis partie en Hollande avec mes 6 000 francs. Puis eux, ils sont partis à la Vierge Noire. Mais on a dormi à l'hôtel, on a mangé dans les restaurants. Parce que les 2 banjos et la guitare, ça donnait.
Eh ben, quel souvenir. À quoi ça sert de voyager? À quoi ça sert les vacances, le voyage? Parce que finalement, on parle de nos souvenirs, on parle d'anecdotes. Mais finalement, à quoi ça sert et pourquoi il y a des vacances? Alors, je vois que Christelle, elle se pose aussi la même question. Christelle, est-ce que vous avez une petite idée ou peut-être un début de réponse?
Moi, je trouve que c'est une bonne question. À quoi servent les voyages? À quoi servent les vacances? Moi, ce qui me fait rire, c'est le mois de septembre où les gens vous disent « Vous êtes partis en vacances ?» Parce qu'on a l'impression que c'est quelque part une obligation de partir en vacances aussi. Alors moi, j'ai peu voyagé, mais beaucoup voyagé par rapport à ma famille. Les voyages m'ont apporté beaucoup de plaisir et de la découverte et des gens formidables avec très peu de moyens qui vous invitaient chez eux. Enfin voilà, j'étais en Espagne, en Andalousie, et j'ai un voisin qui m'a invité. Il avait 500 euros pour vivre par mois. Il m'a fait une magnifique paella, il m'a fait un repas de roi, il n'avait rien pour vivre. Il calculait l'eau dans le boiler et tout ça. Donc ça vous apprend à relativiser aussi les voyages. Et comme disait Clara, à revenir à l'essentiel. Et les gens ne sont pas vraiment dans l'essentiel pour ma part.
Pas vraiment dans l'essentiel, peut-être. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie peut-être de donner je ne sais pas si c'est une réponse, Elvio, une hypothèse ou sa compréhension de dire mais finalement c'est quoi les voyages et à quoi ça sert. Christine.
Ben moi j'ai travaillé 2 ans sur les poubelles de Sœur Emmanuelle. Je devais faire 14 km à pied parce que c'était une zone militaire, il y avait des ânes qui pourrissaient dans la rivière, les taxis n'allaient pas, c'était trop dangereux. Et Sœur Emmanuelle m'a serré la main, elle m'a dit il faudrait plus de gens comme vous. Je lui ai serré la main et je lui ai dit il faudrait surtout beaucoup plus de gens comme vous. C'est une des personnes qui a marqué ma vie. La deuxième personne qui a marqué ma vie, c'était un père de famille au Rwanda. Le grand-père était président, ils ont tué le père et les 7 ministres. Mais lui, il était directeur d'une usine de thé, ils n'ont pas tout de suite été chez lui. Donc il a mis dans les camions militaires 69 cousins, tantes et cousines. Et ils ont été réfugiés au Burundi pendant 60 ans.
Merci Christine, mais on s'éloigne un petit peu de cette question finalement. Pour vous, si je dois vous poser la question, ça sert à quoi de voyager? À quoi ça sert les voyages?
À ouvrir ses œillères, à avoir des open-minded.
À avoir des open-minded. Alors je vois qu'il y a du monde. David, je vous en prie, merci, passez le micro. David, on vous écoute.
Bonjour David.
Bonjour.
Moi je pense que surtout les voyages servent à l'enrichissement culturel quoi. Et puis le partage. C'est, pour moi, c'est ce que je retiens des voyages. Quoi. C'est rencontrer des gens et puis se mettre à leur niveau. Parce que c'est comme disait Clara, ici, on vit trop dans le matériel. Il faut oublier un peu le matériel et puis vivre avec les gens. Quoi. Moi, je trouve que c'est hyper important. Puis je trouve que l'enrichissement culturel, c'est ça. D'apprendre des choses, voir d'autres pays, d'autres cultures.
Parce que David, vous-même, vous êtes un grand voyageur.
Oui,
vous avez fait quelques pays. Est-ce que vous arrivez à nous en citer quelques-uns?
Oui, je peux vous en citer quelques-uns. J'ai fait Laos, Birmanie, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Indonésie, toute l'Europe, Kenya, Tunisie, les Caraïbes 5 fois, Mexique, Guatemala. Et puis voilà.
C'est déjà pas mal. Un vrai globe-trotteur, comme on dit.
Ouais, toute l'Europe. J'ai commencé à 16 ans à partir en routard, quoi, comme ça. Quoi.
Le sac à
moi,
dos.
J'ai toujours voyagé comme ça. Pas toujours, mais beaucoup de voyages sac à dos. En Indonésie, je suis parti 9 mois. Quoi.
Et de tous ces voyages, quel est celui qui a été le plus marquant pour vous?
Bon, les 9 mois que j'ai passés avec mon ex-femme à voyager entre la Malaisie, Singapour et l'Indonésie, ça a été un voyage exceptionnel, quoi. Puis je suis retourné en Thaïlande pour finir les vacances en faisant de la plongée sous-marine. Voilà, donc, vu que j'ai un brevet de plongée, puis que ça fait longtemps que j'en fais plus, mais voilà. Comment ? Ouais, j'ai fait un peu tout le golfe de Phuket, les îles Krabi, tout ça, quoi. J'avais quand même 120 plongées vraiment actif, quoi. Alors, quand j'étais en pleine santé.
Ouais. Alors, en pleine santé, est-ce qu'on doit être en pleine santé pour voyager? Ça peut être une autre question aussi. Mais
non, ce n'est pas forcément une obligation, mais je trouve quand même que d'être en bonne santé, c'est quand même un moyen de permettre d'être polyvalent, de pouvoir pouvoir faire les choses quand même par nous-mêmes, parce que d'être accompagné par quelqu'un, moi j'ai de la peine à concevoir le voyage comme ça. C'est mon avis, quoi.
Ouais, merci de ce partage. D'ailleurs, de votre expérience, qu'est-ce qui permet d'ouvrir les portes quand on voyage? Qu'est-ce qui permet comme ça d'être accueilli par le pays, par les gens? C'est quoi les choses qui permettent de...
Pour moi, je trouve que c'est... Moi, j'ai bossé dans la communication, mais je trouve que c'est assez simple de faire un sourire, de partager une expérience avec quelqu'un, puis d'écouter l'autre, et puis sympathiser. Je trouve que c'est comme ça qu'on rencontre des gens. c'est pas en se braquant sur soi-même que voilà qu'on va rencontrer des gens quoi.
Aller à la rencontre de l'autre, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que dans les voyages que j'ai fait, moi j'ai pas beaucoup voyagé dans le monde entier, mais là où j'ai pu me rendre compte, c'est que quand j'allais par exemple au Maroc, en Tunisie ou dans d'autres pays de l'Est, quand j'arrivais et que je faisais l'effort de simplement dire bonjour, merci et au revoir dans la langue du pays, mais ça a changé toute ma manière de voyager. Parce qu'avant, j'arrivais en anglais comme ça, mais le fait de simplement dire « Samarni, excusez-moi » en tunisien, en marocain, bah, déjà les gens « Ah, bah tiens, il fait l'effort » ou « Chokran », même si je disais « Ah, bah merci pour... » Enfin, je disais « J'aimerais un plat à manger, tenez, chokran ». Et tout ça, ça a permis des fois de créer le lien, de créer la rencontre. Oui, David ?
Oui, ben moi, au Kenya, c'était pareil. J'ai fait le Kenya, puis j'ai trouvé que c'était un pays magnifique, quoi. Ben, pour les grands espaces, les animaux... Et puis après, bon, voilà, s'intégrer aussi à la culture africaine. Puis c'est simple, en disant quelques mots, style Jambo, Abari, Misurisan en Swahili, ben, ça suffit pour mettre quelqu'un à l'aise et puis de partager avec cette personne, quelle que soit la manière, quoi. Moi, je trouve, pour partager, il n'y a pas besoin forcément de parler la même langue. Hein. Il suffit des regards, de bienveillance, et puis voilà, quoi. Je trouve que ça suffit largement pour partager quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous, quoi.
D'ailleurs, on a l'occasion tout à l'heure, dans un des prochains thèmes de l'après-midi, là, il est exactement 4 heures, on arrive gentiment à la fin déjà de ce premier thème, hein. On va gentiment... Alors, je vais vous donner peut-être le mot de la fin pour ce thème, Christine.
Je veux dire que j'ai appris deux mots qui rwandais, c'est maramukero, ça veut dire merci, et gakeye, ça veut dire bonjour.
Eh ben merci. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un encore qui a envie de s'exprimer sur ce thème, échanger. Non. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte un court instant avec une musique qui s'intitule « La vieille » de Leïla Wissou. D'ailleurs, qu'on va laisser progressivement commencer parce que j'aimerais prendre le temps de souhaiter de belles vacances à tous ceux qui en prendront cet été. Profitez de chaque instant entre amis et famille pour vous ressourcer. Ces moments-là sont si précieux.
Sur sa valise, on aurait dit Pompéi. Elle avait encore la souplesse des abeilles. Étant pas décidée vers la gare Saint-Lazare, tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ, elle s'en allait gaiement, son bagage à la main, avec deux ou trois pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur, pour porter ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi, j'ai horreur de ça, comprenez-vous, monsieur? Je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher. Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps, laissez-moi. J'ai affaire, alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard. Descendit au salon, où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux, se grattant l'oreille. Bonsoir, messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon? J'ai pas besoin de vous, dit-elle au médecin, en élevant vers lui son troisième verre de vin. Tandis que les vieillards autour de la pendule chantaient à quatre voix la grosse bite à Dutulle. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant, de 80 gâteaux quittant l'établissement afin de ratisser les auspices du pays, arrachant à la mort des moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au curé, qui au chevet d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort, s'il ne respire plus. Par contre, il bande encore. Un petit coup de branlette le remettra sur pattes, comme un coup de manivelle sur une vieille. vieille juve à quatre. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix. Il respirait encore, mais il ne pendait pas. J'ai pas besoin de vous claironner tous les vieux. Chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux. Car vous n'avez pas su vous occuper de nous. Du temps où nous avions encore confiance en vous. Tous les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morpions votaient, vous sauriez la vérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au nécrophage qui la poussait dans le ghetto du troisième âge. Saloperie technocrate qui inventa cette formule. Du haut de mon mépris, saloperie, je t'encule. C'est la première fois que je dis un gros mot. Et tout en se servant un petit verre de Porto, elle fit un bras d'honneur, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles.
De retour en live depuis le quartier culturel à la buvette au plein centre de l'hôpital de Malévo. Après ces moments fantastiques de voyage, d'expérience, de moments partagés avec nos participants, il est exactement 4h05, le temps de retrouver la mythique chronique d'Elvio.
La minute d'Elvio.
Alors, il y a bien longtemps que je ne m'étais pas fait happer par un jeu vidéo. Étant un grand fan de RPG, donc Role Playing Games, qui veut dire jeu de rôle, eh ben là, c'est un sacré voyage que je vous propose. Je dirais même que c'est une folie. Le studio français montpelliérain, le Sandfall Interactive, nous en met plein la face en nous plongeant dans l'univers envoûtant de Clair-Obscur Expédition 33. Un chef-d'œuvre du RPG tactique qui fusionne la richesse narrative des RPG classiques avec une esthétique française unique et un gameplay innovant. Ce jeu a captivé les joueurs du monde entier en s'écoulant à plus de 3,3 millions d'exemplaires en 33 jours de sa sortie. Dans un monde inspiré de la Belle Époque, où l'art déco rencontre le fantastique, la peintresse s'éveille chaque année pour inscrire un nombre sur son monolithe, condamnant tous ceux à cet âge de disparaître. Cette année, elle peindra 33. Vous incarnez l'expédition 33, un groupe de personnes aux compétences variées déterminées à briser le cycle mortel. Le jeu vous transporte à travers des paysages somptueux, surréalistes, des îles flottantes aux vallées fleuries en passant par des ruines urbaines baignées de lumière iridescente. Chaque région offre une identité propre renforcée par la direction artistique marquante et une bande-son bouleversante composée par Lorient Testard et chantée principalement par la soprano Alice Duport-Percier. Clair-Obscur, Expédition 33 révolutionne le combat au tour par tour en y intégrant des éléments en temps réel, esquivés, parer, contre-attaquer, avec précision pour maximiser les dégâts. Le système de visée libre vous permet de viser les points faibles de vos ennemis, ajoutant une dimension stratégique à chaque affrontement. L'Expédition 33 est composée de personnages au profil diversifié. Gustave l'ingénieur, Ciel la fermière, Lune la savante maîtrisant la magie élémentaire et bien d'autres. Inspirés par une simulation de mission spatiale de la NASA, ces héros apportent une authenticité rare, chacun prenant le devant de la scène à différents moments de l'histoire. Je vous laisse découvrir Lumière, un morceau extrait de la BO, et je vous souhaite de bons moments enchanteurs et stratégiques avec Clair-Obscur Expédition 33. Dim, dam, tarilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternam, et Gustav, dom guardiam. Dili, 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 la, l'outes sera dorilom, sera. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim, da, li, dam.
Merci Elvio pour cette belle découverte, déjà pour votre chronique hebdomadaire et puis pour cette belle musique. D'ailleurs, on était en neuf et puis on se demandait un petit peu s'il y avait des joueurs autour de la table. Alors, est-ce que, parce que gameplay dit jouer, dit manette, dit différentes façons de jouer, informatique, console, est-ce qu'on a des joueurs autour de la table de jeux, comment on pourrait appeler ça,
de jeux vidéo.
De jeux vidéo, simplement. Merci.
Je vous en prie.
Christelle.
Oui, alors moi, j'ai joué à la PlayStation, j'ai joué à la GameCube, j'ai acheté la Nintendo en 1992 quand elle est sortie, quand j'étais enceinte, avec Mario. C'était très, très drôle. J'ai eu la Game Boy qui m'a permis de travailler 13 heures d'affilée en jouant au Game Boy. J'étais surveillante dans la sécurité, donc c'était sympa. Et puis, je me rappelle de Tomb Raider qui m'a beaucoup fait rire dans les années 90 aussi.
Ouais, alors, Tomb Raider, qui a quand même les premiers opus, sont vachement mal vieillis. Quand on voit aujourd'hui la qualité du graphisme, et à l'époque, on était là fascinés de se dire qu'on pouvait sauter d'arbre en arbre. Et aujourd'hui, on est presque saccadés quand on joue à ces anciennes consoles. D'ailleurs, il me semble qu'on appelait ça les cartouches. Est-ce que vous avez gardé des cartouches de cette vieille Nintendo? Parce que je crois que certaines se vendent à prix d'or. Hein.
Malheureusement, j'ai plus aucune Nintendo, Game Boy, etc. Malheureusement. Je regrette. Ouais.
Et est-ce que vous jouez encore aujourd'hui à des jeux vidéo?
Oui, j'ai un très bon ami qui m'a offert la PS4 et je joue au nouveau Tomb Raider. Ouais. Mais c'est trop compliqué pour moi.
C'est un super opus, hein, mais alors c'est devenu effectivement très très difficile à jouer. Hein, ouais. C'est... Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres joueurs de...
Mais moi, je suis resté accroché sur Domus à un moment donné avec ma sœur Domus. C'est des petits moutons que tu tues, après tu fais du bois, tu dois faire des champs, tu dois faire des guerres. Après, tu as une girafe qui t'aide à avancer. Après, tu as différents animaux que tu peux obtenir en achetant.
En fait, vous nous dites que c'est un jeu de woofing virtuel.
Exactement,
quoi,
c'est tout à fait ça. Et par contre, j'ai un fils qui est geek. Il a deux tours entières que pour ses jeux, un écran géant. Et lui, il est branché justement dans les jeux de rôle dont tu parlais. Mmh. Il les fait en vrai. D'abord, il les fait en émission, en jeu. Mmh. Et après, ils vont dans le canton de Vaud pour une semaine. Et ils font le jeu en vrai. Il faut faire les costumes, il faut faire les fléchettes, il faut faire tout.
Oui, alors ça arrive aussi. Hein, c'est les conventions médiévales où on fait des choses comme ça et tout. Je fais encore un peu de temps en temps.
Samuel, vous êtes un peu notre junior aujourd'hui autour de notre table parce qu'il y a différents, on est multigénérationnel. Certainement que vous devez être aussi un aficionado, ce qu'on pourrait dire, ou peut-être pas. Hein, peut-être qu'on se fait un cliché des jeunes qui passent leur temps devant les jeux. Mais est-ce que vous êtes adepte des jeux?
Oui, quand j'étais plus jeune, je jouais vraiment beaucoup. Maintenant, je joue de temps en temps. Mais ouais, j'aime bien tout ce qui est jeux d'aventure, tous les jeux qui ont une histoire, j'aime bien. Et puis aussi les jeux de sport.
Donc en particulièrement, un jeu de sport, basket, football,
ouais, FIFA.
Foot, après j'ai d'autres aussi, là. UFC.
Ah, l'UFC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les jeux de combat de MMA.
Donc voilà, le jeu.
Ouais. Merci en tout cas de ce partage déjà. L'heure avance gentiment. Quand on parle de jeux, souvent je me suis retrouvé à voir mon fils qui jouait et qui des fois... quand ils sont avec leur casque maintenant, on les voit des fois s'engueuler, on les voit des fois se critiquer, on les voit des fois ne pas accepter de perdre ou gagner comme ça. Finalement, ça permet de faire le lien avec notre dernier thème de l'après-midi qui est finalement sur la tolérance, la bienveillance et l'empathie parce qu'il y a des fois des joueurs qui n'ont pas, quand on les entend jouer, c'est pas tellement le cas. Christelle, vous aviez envie de nous proposer ce thème aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous nous amenez ce thème aujourd'hui?
Je trouve que l'empathie, la bienveillance et la tolérance, c'est la base de beaucoup de choses dans la vie actuelle, la vie de nos jours, la vie d'avant, mais encore plus actuellement. Faire preuve d'empathie, c'est une bonne chose, mais c'est à double tranchant aussi, parce que plus on est empathe, et des fois, plus on se fait manger par les autres, on va dire. Et la bienveillance, parce que ce monde manque de bienveillance, je trouve.
D'ailleurs, mais c'est quoi l'empathie? Parce que c'est un mot qu'on entend énormément aussi dans les soins, dans les relations de soins humaines. Qu'est-ce que c'est l'empathie? Comment on pourrait décrire l'empathie?
L'écoute de l'autre, l'accompagnement à l'autre. L'accompagnement sur le chemin du rétablissement pour l'autre. L'amour qu'on partage avec l'autre. Toute cette bienveillance. Enfin, l'empathie, pour moi, c'est prendre soin de l'autre.
Ouais, c'est déjà aussi une bonne vision de l'empathie. Pour vous, Elvio, l'empathie, comment on la définit, vous qui êtes aujourd'hui en formation de ce fabuleux parcours de père praticien? Certainement que vous abordez ce thème dans la formation. Moi, je l'ai abordé aussi dans ma formation infirmière. D'ailleurs, on donnera aussi la parole à notre infirmière aujourd'hui, Clara. Mais pour vous, c'est quoi l'empathie?
Je dirais déjà rien que dans la charte que l'on a établi au début de la formation, c'est empathie, bienveillance, entraide, faisait partie des premiers mots qui sont sortis. Car on a besoin d'avoir cette empathie pour pouvoir, pour moi, soigner les personnes de manière correcte et surtout de comprendre dans quel état émotionnel ils peuvent se trouver. C'est un petit peu la base de nos métiers de soignants. Et je pense que justement, il y a beaucoup de personnes qui feraient mieux de s'intéresser à ce terme parce que c'est un terme qui justement ouvre la voie sur la guérison.
Ouais. On est déjà sur un début de piste, hein, l'empathie, comprendre. Alors je ne sais pas si Clara a envie peut-être de donner, elle, peut-être comment on sait cette définition de l'empathie qu'on utilise dans les soins, Qu'est-ce que c'est pour vous l'empathie?
Alors l'empathie, pour moi, c'est effectivement, en tout cas, essayer de comprendre ce que ressent l'autre et puis de respecter en fait ses émotions et de... ouais, de prendre le temps. De, ouais, pour moi, vraiment, l'empathie, c'est, je ne peux pas trouver un meilleur mot que comprendre. Enfin, essayer de comprendre.
Ouais. Mais c'est juste, hein, vous avez tout à fait tous raison. C'est, on est dans les prémices de ce qu'est l'empathie. C'est déjà de comprendre l'autre. C'est comprendre la souffrance de l'autre, mais sans la vivre, sans la subir. Parce qu'on peut des fois être dans la compréhension de la souffrance et puis d'être complètement aussi envahi par cette souffrance. L'empathie, c'est vraiment de comprendre la souffrance de l'autre sans la subir et la vivre soi-même. Mais on a besoin de ça pour pouvoir fonctionner dans cette société qui est par moments manque d'empathie, c'est vrai, et de bienveillance. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie... Alors, Christelle, oui, je vous en prie.
Excuse-moi, j'ai perdu le film.
Non, non, pas de souci, vous avez le temps de le retrouver.
Mais, oui, je voulais dire, par rapport à ce que tu venais de dire, quoi, exactement, excuse-moi.
Que l'empathie, c'est reconnaître la souffrance de l'autre, alors, mais moi, sans la subir et sans la vivre, en fait.
Oui, et puis moi, je dirais que c'est entendre l'autre.
Oui, entendre l'autre, oui.
Parce qu'il y a écouter et entendre, oui. Et c'est différent. Exactement.
Christine.
La chose que j'aimerais dire, c'est que chez les chiffonniers, non seulement j'ai été bien accueillie, en plus j'ai mangé chez eux par terre parce que c'est propre comme un sous-neuf. Ils vivent dans les poubelles, l'armée ramasse chaque fois leur construction et leur dispensaire pour les pousser toujours plus loin de la ville. Et c'est des gens qui m'ont accueillie comme si j'étais une reine. Et moi j'ai beaucoup appris à leur contact, c'est pas eux qui ont appris à mon contact, c'est moi qui ai appris à leur contact.
Ils ont été bienveillants envers vous?
Ils étaient bienveillants parce qu'on s'occupait de leurs enfants. Parce qu'on disait aux femmes, mangez et nourrissez vos enfants, n'achetez pas du lait Nestlé.
C'est
parce
vrai.
Du lait Nestlé à 50 centimes, pour eux, c'est beaucoup.
Ouais. Mais des fois, quand il n'y a rien d'autre... Bah,
il faut nourrir les mères et les laisser allaiter.
C'est vrai. Mais comment on pourrait, dans ce monde où on entend qu'il souvent il manque d'empathie, de bienveillance, de tolérance, comment on pourrait faire? Est-ce que vous avez peut-être des pistes, des réflexions qui permettraient d'améliorer ça?
La musique.
Alors, la musique, ça peut être, oui, vecteur d'aller vers le bien-être, le mieux-être.
La musicothérapie, oui, exact.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire partager des moments de djembé, de tambour, de guitare, pour l'élévation au niveau du taux vibratoire aussi. Ça aide beaucoup.
D'autres pistes qui permettraient à ce monde qui, malheureusement, des fois... David, on vous écoute. Prenez mon micro et après je vous donnerai la parole.
Moi, je pense aussi qu'il faut éviter beaucoup le jugement parce que moi, je ressens beaucoup le jugement. Ça, c'est mon impression personnelle, mais je sens qu'on est casé dans des cases et puis voilà, les gens, ils ont un protocole. Je comprends que tout le monde doit travailler, mais il y a beaucoup de manque d'empathie justement parce qu'il n'y a pas de compréhension de la personne qui est en souffrance. C'est tout, quoi. Et puis je pense que les gens ont tendance beaucoup à juger sans connaître le parcours de vie de la personne.
Ouais, quoi. Sans connaître, des fois par peur aussi. Hein.
Ben,
des
par fois, peur, la peur, oui.
Fait qu'on a des fois des réactions qui sont des Bien fois sûr. Pas adaptées. Mais oui, vous avez raison. Alina ?
C'est-à-dire, c'est aussi, comme elle disait Christelle, bienveillance envers aussi les gens, discuter avec les personnes et tout. Et puis bien connaître la personne et puis discuter.
Aller à la rencontre de l'autre.
Voilà, exactement, ouais.
Participer à l'émission Pavillon Nomade.
Oui, exactement.
Oui,
ça, ouais.
C'est vecteur, oui, à ces différences, à s'accepter avec nos visions différentes.
Et puis accepter aussi que les autres ne sont pas toujours... Puis accepter les autres comme ils sont, et puis leurs valeurs, et puis leurs connaissances et tout.
Oui, merci Alina. Christine.
Je ne sais pas si c'est déjà le dernier mot de la fin.
Alors, non, on a encore quelques minutes autour de ce thème.
Alors, moi, j'ai rencontré Junior Chaka, qui est un guitariste de Châtelois.
Neuchâtelois, exactement.
Rasta, qui a gagné l'European Master de Reggae à Milan et que personne ne connaît en Suisse. Ça fait 20 ans qu'il fait de la chanson. Moi, je le fais tourner au max et je partage au max parce que c'est des gens qui racontent des choses intéressantes. Et il a fait une chanson, je ne sais pas si j'ai le temps.
Alors, pour l'instant, on va pas chanter pour l'instant. On en a discuté. On va continuer sur le thème parce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'intervenir. Elvio.
Moi, j'aimerais dire aussi informer. Informer les gens, déstigmatiser. Il y a maintenant, depuis plusieurs années qu'il existe la Mad Pride, par exemple. Je sais pas si.
Oui, la Mad Pride. Bah, expliquez-nous un petit peu, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ce qu'est la Mad Pride.
Voilà, la Mad Pride, c'est un défilé annuel en fait festif qui est là en fait, qui propose aux associations, surtout pour les personnes souffrant de maladies psychiques, d'être représentées, de se faire connaître. Faire connaître la maladie et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, la déstigmatiser. Donc cette année, je ne sais pas où...
Elle, ben, ouais, je ne sais pas où elle a eu lieu.
Il y a eu Lausanne, il y a eu Sion.
Il y a eu Berne.
Voilà. Mais c'est vrai que pour moi, l'information est très, très importante aussi. Donc,
L'information et puis certainement aussi l'éducation.
L'éducation des
parce
gens.
Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça, c'est pas inné. La bienveillance, la tolérance, l'empathie, on ne naît pas avec ça. On se construit selon les expériences qu'on a de la vie, mais aussi de l'éducation. Je pense qu'il y a énormément de choses qui passent par l'éducation, que ce soit au sein d'une société, hein, mais ça veut dire à l'école, comme dans des familles, mais certainement aussi à l'école. Hein, on a de plus en plus maintenant des cours comme ça qui sont sur la tolérance, la bienveillance, pour éviter aussi le harcèlement. On devrait peut-être aussi rajouter des cours d'éthique, je pense, à ces jeunes dans le cursus scolaire. Alina, on va donner le micro à Alina, s'il vous plaît. Merci de faire passer le micro. Alina, on vous écoute.
Je voulais savoir ce que c'est les cours d'éthique.
Alors, qu'est-ce que c'est l'éthique ? Alors, je pense qu'avec le temps qui est à partie, ça pourra faire partie d'un thème prochainement, parce que je pense qu'on va, on n'aura pas le temps de pouvoir discuter autour sur les quelques minutes qui nous restent. C'est compliqué, mais on garde en mémoire, Alina, pour une prochaine émission, d'accord, peut-être de parler autour de ce fabuleux thème et de l'éthique.
Ok, merci
Christelle,
beaucoup.
Je voudrais juste dire deux mots.
Oui, allez-y, vous avez encore quelques minutes, on arrive gentiment à la fin.
Accueillir, tout simplement, et bienvenue.
Accueillir, bienvenue, oui. Elvio ?
Alors, je regardais juste la Mad Pride, la prochaine, elle est à Berne, donc en 2026.
Ouais.
Donc,
voilà. 2026, quel jour ?
Alors, écoutez, là, je suis sorti de...
Ah, ouais. Alors, le temps que vous retrouvez, ouais, ça me fait penser quand même que l'hôpital de Malivaux était, on l'a déjà dit un petit peu dans nos émissions, mais était un peu des précurseurs, on pourrait dire, de cette Mad Pride, parce que au tout début... il y avait ce fabuleux cortège du carnaval à monter. Et ici, à l'hôpital, les patients faisaient partie du cortège. Ils construisaient un char. Ils faisaient un char ici et ils allaient défiler dans le défilé des chars. Et ça œuvrait à la déstigmatisation. Et c'est un peu, on pourrait dire, les précurseurs. Alors, c'est pas pour être chauvin parce que je ne le suis pas du tout. Mais c'est pour rappeler l'anecdote et l'histoire de Malévo. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a inauguré il y a quelques semaines en arrière. Les podcasts sur l'histoire de Malévo pendant la temps de guerre. Vous allez pouvoir retrouver ça sur toutes les plateformes de streaming. Pas encore ou... Alors après, alors bientôt, alors Pascal, notre technicien, est-ce qu'on a une date comme ça qu'on pourrait déjà annoncer ? Alors, on vous tiendra au courant de ce futur podcast que vous allez pouvoir découvrir, qui sont juste exceptionnels. Elvio.
Donc la Mad Pride en 2026 sera à Genève. Donc c'est vraiment précisé pour déstigmatiser les maladies psychiques. Et cet événement est organisé par la CORASP. La CORASP, c'est la fêtière, en fait, de toutes les associations de Suisse romande de souffrance psychique.
Ah. Voilà. Ben, merci Elvio. D'ailleurs, on parlait d'événements, de calendrier. On a quelques minutes. Est-ce que vous êtes d'accord de nous faire, peut-être, comme ça, pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche sur les futurs événements qui vont être ici au MQC
Alors oui, donc du 22 juin au 22 septembre, on a une exposition de Michel Thérapon et de André Créta qui s'appelle « Singulier pluriel ». Alors, je vous invite à venir découvrir cette manifestation. Les expositions, en fait, c'est les mercredis et les dimanches de 14h à 16h. Et merci de prendre contact avec nous pour pouvoir visiter. Et on a l'Université Populaire du Végétal. Et là, on a un super programme qui a déjà commencé. Le prochain, ça sera Potager Zéro Labourage le 19 juillet 2025, donc de 9h à 12h. Il y a la lactofermentation au mois d'août, le brassage de la bière au mois de septembre et la fermentation à la japonaise en octobre. Donc vous pouvez vous rendre sur le site du MQC pour avoir plus de renseignements.
Bah merci Elvio pour tous ces événements à venir. Et voilà, notre voyage immobile touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été avec nous ici en direct depuis la buvette du MQC, ce petit coin vivant du quartier culturel de Malévo. Merci aussi à nos participants du jour d'avoir partagé leur voix, leurs idées et un bout de leur monde. Un grand merci aussi à Pascal Vigolo pour la technique. À jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Normal, la radio follement normale où les micros bougent autant que les pensées. En attendant, gardez l'oreille curieuse et l'esprit ouvert et surtout, n'arrêtez jamais de voyager, même sans bouger. On se quitte avec Earthcal Roa de Nordic Featherscraft. Síðdegis á er sann er í hjarta við drykkjum með ljúfum tunga snýr mörgum til feiks líkum fel lífi Sterken sárar tennur